Écho d'économie.
Deuxième jour, c'est jeudi à Lubumbashi de la DRC Mining Week. Dans une conférence de presse en marge de la semaine minière, l'agence américaine pour le développement USAID a rappelé son souhait de voir le droit de l'homme respecté dans le secteur extractif. Au moins 300 femmes vulnérables dans l'est de la RDC bénéficient de la formation dans le domaine de la production de bioéthanol à partir de la canne à sucre pour un usage médical, l'épargne et les prêts de groupe ainsi que le développement de l'esprit d'entreprise. Bienvenue à tous. L'Agence américaine pour le développement tient au respect de droits de l'homme dans les secteurs extractifs. Son directeur général en a fait écho mercredi au cours de la conférence de presse qu'il a animée en marge de la tenue de la 19e édition de la DRC Mining Week à Lubumbashi. Pour le responsable de cette agence américaine, l'objectif est que la RDC et son peuple profitent de leurs richesses. John Dunlop est au micro de Jean Gandou.
Nous avons ciblé beaucoup les questions des droits d'homme dans le secteur des mines, le travail des enfants et d'assurer que le secteur c'est plus ou moins propre dans le sens que quand on achète soit le cobalt, soit les différents, l'or, on peut connaître que l'extraction de cette minerai était faite avec un œil vers la justice et les droits d'homme, qu'on peut avoir fier d'avoir une bague qui est venue de République démocratique du Congo parce qu'on connaît que c'était produit avec un œil vers la justice et les droits d'homme. Maintenant, nous sommes en train de grandir notre focus sur la question des mines et des minerais dans ce pays. C'est là où nous ciblons la bonne gouvernance dans le secteur des minerais et d'assurer qu'il y a un environnement dans le secteur privé qui est équitable pour tous les gens qui veulent investir ici, qui n'a pas la corruption et là où les minerais, ça vient de mines jusqu'aux gens qui utilisent ça, qui est propre. On peut connaître qu'on a trouvé le meilleur prix, non seulement pour les gens qui consomment les produits, mais aussi que le gouvernement et le peuple des RDC ont profité de leurs richesses.
Protection de l'industrie locale pour lutter contre la concurrence qui est faite à partir de produits qui viennent de l'extérieur et la promotion des exportations des produits congolais. C'est entre autres là les piliers importants que s'assigne le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaungia, l'a déclaré ce jeudi ici à Kinshasa. C'était lors de la cérémonie de remise et reprise avec son collègue Jean-Lucien Boussa. Les propos de Julien Paluku au micro de Paul Matin.
Parmi les piliers importants que nous allons inscrire sur notre ligne, notre trajectoire, il y a celui de la protection de l'industrie locale pour lutter contre le dumping ou alors la concurrence qui est faite à partir des produits qui viennent de l'extérieur. Mais au-delà de la protection de l'industrie locale, nous allons poursuivre le travail qui est réalisé par, notre collègue, celui de la promotion maintenant des exportations. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se limite seulement à produire au niveau local, mais nous devons permettre que les produits congolais accèdent au marché international. Déjà, nous avons la GOA, qui est une loi américaine, qui permet à ce que tous les produits qui viennent de l'Afrique subsaharienne accèdent au marché américain sans paiement des frais de douane. Peut-être les gens n'ont pas suffisamment été au courant de cela. Nous allons faire la promotion des produits congolais pour qu'ils soient consommés par exemple aux États-Unis à travers cette facilité qu'on appelle AGOA. Nous avons le marché chinois qui dont la population est estimée à 1,5 milliard. Imaginez-vous, si vous gagnez seulement 30% du marché chinois, vous allez développer et faire exploser toute l'économie congolaise. Et la conséquence des exportations, c'est la rentrée des devises et de participer à la stabilisation de notre monnaie. Et donc c'est un ministère transversal qui va permettre à la fois d'interagir avec le ministère de l'Industrie, mais également interagir avec tous les autres ministères, notamment l'agriculture et les ministères sectoriels, de manière à permettre que dans cette sorte de synergie, nous assurions que la RDC se place sur l'orbite des pays désormais exportateurs. Et quand on devient pays exportateur, ça veut dire que ce sont des devises qui rentrent dans les pays. On a été exportateur du café, du cacao, de l'EVA et de tous les produits. Maintenant, nous avons des produits qui sont recherchés à travers le monde. Le soja, il y a des filières. Lorsque nous allons vulgariser la stratégie nationale de promotion des exportations, nous savons que la RDC a 62 filières prioritaires qu'elle doit promouvoir pour faire consommer ces produits sur l'ensemble du monde. Nous allons enfin essayer un peu de mettre un accent particulier sur l'Office congolais de contrôle, parce que c'est cet office qui permet le contrôle de la qualité des produits.
La diversification de l'économie pour réduire l'emprise du secteur minier sur l'économie nationale constitue l'un de 6 piliers du programme gouvernemental que va diriger Madame la Première ministre Judith Suminois. L'agriculture se présente comme pilier sur lesquels il faut s'appuyer pour atteindre cette diversification. Annie Mumbunza, députée honoraire du territoire de Boudjala dans le sud d'Ubangi, encourage la Première ministre à matérialiser son programme agricole, même si la RDC n'a toujours pas respecté l'engagement de Maputo, où les chefs d'État et de gouvernement avaient pris l'engagement en 2003 d'allouer 10% de leur budget à l'agriculture. Écoutez la députée Annie Mumbunza au micro de Daniel Tambizoni.
On prend un pays sérieux lorsqu'il respecte les engagements. Signer l'accord de Maputo, c'est-à-dire... c'est un engagement qu'on avait accepté. Donc, il faut que le gouvernement respecte cet engagement. Si vous regardez bien sûr toute l'étendue nationale, le problème qui ronge notre population, c'est le chômage, c'est la famine, c'est l'instabilité de l'économie nationale. Mais j'ai la forte conviction et je reste vraiment positive que les choses vont s'améliorer. Et surtout quand j'ai jeté un coup d'œil en passant dans le programme gouvernemental de ces mandats, je reste positive. Je me dis si aujourd'hui le gouvernement met le sérieux dans les secteurs agricoles, ça peut décompter beaucoup de choses dans notre pays. J'ai lu parmi les objectifs dans le programme gouvernemental, j'ai vu éliminer le poste d'insécurité alimentaire et nutritionnelle permanente ou transitoire en régulant constamment l'offre des produits agricoles sur le marché de façon à sauvegarder les niveaux des prix dans l'intérêt des producteurs et des consommateurs. Donc déjà, l'idée est là, l'idée est bonne.
Au moins 300 femmes vulnérables dans l'Est de la République démocratique du Congo bénéficient de la formation dans le domaine de la production de bioéthanol à partir de la canne à sucre pour un usage médical, l'épargne et les prêts de groupe ainsi que le développement de l'esprit d'entreprise. Cette formation assurée par l'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement et l'industrie ainsi que le Japon, rentre dans le cadre du projet Autonomisation économique des femmes vulnérables vers la stabilisation sociale dans l'Est de la RDC. Daniel Tambizoni nous en parle.
L'ambassade du Japon à Kinshasa qui nous livre cette information dans un communiqué renseigne que le premier secrétaire et chef de coopération de l'ambassade, Minako Suga, a assisté à la formation sur la production du bioéthanol dans la partie qui couvre la gestion de l'approvisionnement en matières premières, la gestion de la qualité du bioéthanol et la sécurité au travail. Son message aux apprenantes, le Japon entend contribuer à la paix et à la stabilité en soutenant l'autonomisation économique et la réintégration sociale des femmes vulnérables avant d'exprimer sa conviction que les femmes contribuent à la réalisation d'une société pacifique et stable en devenant une force motrice pour le développement de la RDC et la région. Le coût de ce projet financé par le gouvernement japonais n'est pas révélé, cependant, il est mis en œuvre en partenariat avec le gouvernement de la RDC, la fondation Panzi, l'université de Tokyo et une ONG japonaise Rita Congo. Le projet vise à libérer le potentiel des femmes congolaises en les intégrant dans la chaîne de valeur bioéthanol, accentuant ainsi leur contribution à l'industrie et aux services médicaux de santé, tout en renforçant leur participation économique pour leur indépendance financière et leur confiance en soi. La production de bioéthanol commencera bientôt, dit le communiqué, dans une usine installée par le projet dans l'enceinte de la fondation Panzi à Bukavu, dans la province du Sud Kivu.
Comme promis, voici à présent l'intégralité de l'interview que nous a accordée la députée honoraire du territoire de Boudjala dans le sud d'Ubangi. Elle encourage la diversification de l'économie nationale telle qu'annoncée dans le programme du gouvernement souminois. Annie Mumbunza propose que beaucoup de moyens soient alloués à l'agriculture pour que le sol prenne réellement sa revanche sur le sous-sol. L'invité de l'économie s'entretient avec Daniel Tambizoni.
Madame Annie Mumbunza, bonjour. député honoraire du territoire de Boudjala dans le sud Oubangui, pendant votre séjour au Parlement, vous avez lutté à ce que le gouvernement respecte les engagements de Maputo, parce que dans la déclaration de Maputo, les chefs d'État et de gouvernement s'étaient engagés à allouer ne serait-ce que 10% de leur budget à l'agriculture. Aujourd'hui, qu'on parle de la diversification de l'économie de la RDC, l'agriculture s'avère être le pilier sur lequel il faut s'appuyer pour obtenir cette diversification de l'économie nationale. De toute la lutte que vous avez menée au Parlement, pensez-vous que le moment est venu pour retourner à la déclaration de Maputo et réaliser ce qui était promis, cet engagement que la République avait pris?
Tout à fait, il est temps. Il est temps de respecter parce que on prend un pays sérieux lorsque il respecte les engagements. Signer l'accord de Maputo, c'est-à-dire, c'est un engagement qu'on avait accepté. Donc, il faut que le gouvernement respecte cet engagement.
Vous en aviez fait votre lutte. Est-ce que ça a donné un résultat qui vous a satisfait?
Non, jusque là, le résultat n'est pas encore satisfaisant parce que si vous regardez bien sur toute l'étendue nationale, le problème qui ronge notre population, c'est le chômage, c'est la famine, c'est l'instabilité de l'économie nationale. Donc, le résultat n'est pas encore satisfaisant. Mais j'ai la forte conviction et je reste vraiment positive que les choses vont s'améliorer. Et surtout quand j'ai jeté un coup d'œil en passant dans le programme gouvernemental de ces mandats, je reste positive. Je me dis si aujourd'hui le gouvernement met le cerier dans les secteurs agricoles, ça peut décompter beaucoup de choses dans notre pays.
Qu'est-ce qui vous donne autant d'assurance, madame?
Parmi les objectifs dans le programme gouvernemental, j'ai vu éliminer le poste d'insécurité alimentaire et nutritionnelle permanente ou transitoire en régulant constamment l'offre des produits agricoles sur le marché de façon à sauvegarder les niveaux des prix dans l'intérêt des producteurs et des consommateurs. Donc déjà, l'idée est là, l'idée est bonne. Je vois encore la quatrième action relative au développement des liens commerciaux avec les industries des alimentations humaines et animales et d'autres canaux de marché pour promouvoir les chaînes de valeur. Et la huitième relative à la relance des cultures pérennes telles que le palmier, Evea, café, cacao, etc. Donc, moi, je crois que c'est déjà une bonne projection, c'est déjà une très bonne idée, une très belle vision. Et surtout pour ma province du Sud Oubangui, en tout cas, je me dis une province qui, sur le plan historique, a fait preuve d'un avantage comparatif en matière de production de ces cultures. Donc, je me dis, si aujourd'hui le gouvernement met tout cela en œuvre, donc je crois que ça peut sortir le pays de la pauvreté, des manques de nourriture, de ces fameuses importations des denrées alimentaires.
Donc voilà. Vous êtes convaincu que cette fois-ci, le sol va effectivement prendre sa revanche sur le sous-sol?
En fait, j'ai dit, avec l'idée qui est écrite dans le programme de gouvernement, en tout cas, si les gens mettent du sérieux, ça va être concret, ça va être concrétisé. Hein? Là, il faut maintenant s'appuyer sur le moyen interne et à cet effet, mobiliser massivement les recettes au niveau interne. Donc, c'est ça, ce sont le préalable. Donc, il faut que le gouvernement mobilise massivement les recettes internes et alloue beaucoup de moyens au secteur agricole qui a le plus fort potentiel de réduction de la pauvreté car il est aussi intensif et en main d'œuvre. Donc, moi, je crois que le programme est bien présenté, mais seulement l'exécution, c'est seulement l'engagement, seulement aussi la volonté politique. Voilà aussi le problème. Les dames et messieurs qui ont la volonté d'accompagner la vision des chefs de l'État. Je l'ai suivi quand il est arrivé à Guémena pour sa campagne électorale. Il a parlé de la pauvreté extrême de notre province, du Sud-Ubangi en particulier, et puis du Congo en général. Mais vous pensez que pour sortir les pays de cette pauvreté, mais c'est l'agriculture, pêche et élevage. Ce sont les activités génératrices des recettes et ça fait en sorte qu'on puisse conserver les devises dans notre pays.
Madame Annie Mambunza, députée honoraire, merci d'avoir répondu aux questions de Radio Okapi.
C'est à moi de vous remercier, Monsieur Daniel.
Fin de Écho d'économie de ce soir. Alain Goy était à la prise de son, Dieudonné Nyangasa et Hervé Vocal à mise en onde. Merci de nous avoir suivis.